Studio Tamani, voici nos informations en français.
Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. La validation du projet de règlement intérieur du Conseil national de transition était hier au cœur des débats des conseillers de la transition. Une fois adopté, ce document sera transmis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité. La Commission nationale de défense des droits de l'homme, CNDH, réclame l'adoption d'une loi contre l'esclavage par ascendance et une autre contre les violences faites aux femmes. Elle l'a fait savoir hier lors de la Journée internationale des droits de l'homme. Dans ce journal, nous irons à Kati où notre correspondante Habibatou Christine Dra va vous parler du stationnement anarchique de gros porteurs. Cette pratique à l'origine de nombreux accidents de circulation est fortement dénoncée par les populations. Les détails dans un instant avec Imran Akil Omega à la mise en onde de Gagny Kanti. Le premier débat en plénière du Conseil national de transition a été organisé hier sur la validation du projet de loi, du projet de règlement intérieur proposé par la commission ad hoc. Ces travaux ont été conduits par l'ancien député et membre du CNT, Acharid Ag Imbarkawan. Une fois adopté, ce document sera transmis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la charte et à la constitution. Mamadou Samasiko.
Pour les représentants des mouvements de l'inclusivité au sein du CNT, la commission ad hoc a fait un bon travail et que les discussions de cette rencontre se passent dans la convivialité, la courtoisie et surtout le sérieux. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre du CNT.
Globalement, tout se passe très bien. Les discussions se passent à ce niveau dans la convivialité, dans la courtoisie et surtout dans le sérieux. On sent que tout le monde est sérieux dans ce qu'il fait. Mon impression principale est c'est encourageant.
Du côté des experts de la commission ad hoc, on explique que les débats doivent rester dans l'esprit du texte proposé. Pour le constitutionnaliste Sleman D, membre du CNT et expert de la commission ad hoc, tous les points évoqués et toutes les interrogations ont été répondues à la satisfaction des conseillers.
Le règlement intérieur, il doit être conforme à la constitution et conforme à la charte de la transition. Ça prendra le temps que ça doit prendre parce que c'est un document très très important qu'on ne peut pas non plus bâcler. Il faudra aller jusqu'au bout, mais c'est après son adoption seulement que le texte est transmis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Et lorsque la Cour constitutionnelle rendra son arrêt et que l'adoption est définitive, oui, le Conseil national de transition procédera à la mise en place de son bureau, de ses commissions et de tous les autres organes nécessaires pour son bon fonctionnement.
Rappelons qu'au cours de la plénière, les débats ont beaucoup porté sur la diminution des charges financières, le modèle de nomination des questeurs, la commission spéciale d'enquête et aussi la gestion des vacances de sièges, entre autres.
Le collectif des députés de la 6e législature du Mali a réclamé ce mercredi, lors d'un point de presse, de siège au sein du Conseil national de transition pour ses anciens députés du régime IBK, tous les efforts seront déployés jusqu'à la satisfaction de cette doléance ou l'organisation anticipée des élections législatives. Eli Diarra, président du conseil du collectif des députés de la 6e législature, est au micro de Mouda Issef Maïga.
Beaucoup de gens pensent que les députés ont boudé le CNP. Nous, elle est là, nous avons fait des démarches pour adhérer à la transition pour le bien du Mali parce que nous avons été élus par le peuple malien et puis nous sommes des Maliens. C'est ce qui a suscité aujourd'hui ce point de presse qui est le début des multiples actions que nous allons mener à travers le pays. Nous, députés de la 6e législature, nous sommes victimes d'un fait dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons été élus par nos populations dans nos circonscriptions respectives sans problème. Donc, mettre ces députés à l'écart, comme si nous sommes les problèmes de ce pays, nous allons mobiliser nos populations pour revendiquer les droits de tous les Maliens. Nous les demandons jusqu'à présent de tendre la main au collectif. Mais dans le cas échéant, nous allons demander d'écouter la transition pour aller aux élections. Nous n'avons pas peur des urnes. Ceux qui ont peur des urnes, ceux qui ont été bâtis, c'est ceux-ci qui sont aujourd'hui au CNT.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La visite du chef d'État des armées françaises au Mali s'achève ce vendredi 11 décembre 2020. François Lecointre a rencontré hier à Gao les responsables des forces armées françaises maliennes et de Takuba. Les responsables de ces différentes forces ont évalué ensemble la qualité de leur partenariat dans la lutte contre le terrorisme. Le chef d'État-major des armées françaises rencontrera ce matin le président Bandao. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a organisé ce jeudi 10 décembre 2020 la 12e édition du symposium national sur les droits humains au Mali. Au cours de cette rencontre, les défenseurs des droits de l'homme ont exigé des autorités l'adoption d'une loi contre l'esclavage par ascendance et une autre contre les violences basées sur le genre. Le point avec Maliki Diallo.
Pour le président de la CNDH, l'année 2020 est épouvantable en termes de violation des droits de l'homme. En plus de nombreuses attaques terroristes dans la région du Nord et du Centre, Aguibou Bouaré regrette les violences qui ont provoqué la mort de plusieurs personnes à Bamako lors des contestations du mouvement du 5 juin contre le régime Ibeka. Les principales préoccupations de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme sont la pratique de l'esclavage, notamment dans la région des Kayes, et les violences basées sur le genre, d'où la plaidoirie pour l'adoption de textes contre ces violences.
Au niveau national, il n'y a pas de texte spécifique qui indique des sanctions précises par rapport à ces infractions. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train de faire le plaidoyer pour avoir une loi contre les violences basées sur le genre et une loi contre l'esclavage. Cela va aider les juges dans leur travail de répression.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme rassure que la protection, le respect et la promotion des droits humains sont une priorité du gouvernement de la transition. Mohamed Sida Diko affirme qu'une attention particulière est accordée aux victimes de la pratique de l'esclavage.
Toutes les affaires portées devant les juridictions suite à des cas de violation grave des droits de l'homme font l'objet d'un suivi particulier, qu'il s'agisse des affaires des régions du Nord et du Centre ou de celles consécutives aux violences communautaires dans la région de Kayes.
Depuis 2015, un avant-projet de loi contre l'esclavage est déposé sur la table du Conseil des ministres. En attendant son adoption, la pratique de l'esclavage fait de nombreuses victimes dans la région des Kayes. En juin, 4 personnes ont été tuées dans le cercle de Nioro du Sahel. Plusieurs centaines d'autres ont été chassées de leur village entre 2017 et 2020.
Plus d'une centaine de veuves de militaires vivent aujourd'hui dans la commune rurale de Sebogou, dans le cercle de Segou. Certaines parmi elles sont confrontées à de nombreuses difficultés dans la vie sociale. Elles sont souvent sans moyens pour survivre avec leurs enfants. C'est le cas de Mariam Tera. Malgré les efforts déployés, survit à peine à la nourriture de ses enfants de Segou. Nous retrouvons notre correspondant Mohamed Sissé.
Elle s'appelle Mariam Tera, une veuve militaire vivant dans la commune de Sebougou, dans la région de Segou. Cette mère de 4 enfants, dont une fille, s'est lancée dans la confection des napperons, les petits pains et la vente du bois de chauffe pour nourrir ses enfants. Elle pratique cette activité depuis la mort de son mari dans la rébellion de 1990. Madame Guindo, Mariam Tera.
Après le décès de mon mari, je me suis lancée dans la confection des napperons, des layettes pour enfants et des draps. Je les vends, c'est avec ça que j'ai nourri mes enfants.
Cependant, malgré tous ses efforts et sacrifices, Mariam Tera affirme que les revenus de ce travail n'arrivent toujours pas à supporter les dépenses de la famille.
Avec les peu que je gagne, on fait avec. Sinon, ça ne suffit pas, même si souvent, j'ai des commandes.
Aujourd'hui, elle est confrontée à d'autres problèmes comme le paiement des frais de scolarité des enfants, de médicaments et de nourriture.
J'ai des problèmes pour joindre les deux bouts. Les enfants étaient tous petits quand leur papa décédait. Certains n'étaient même pas inscrits au jardin d'enfants. La pension me permet juste de faire face aux frais de scolarité. En cas de maladie, c'est un autre problème. Souvent, il faut s'endetter pour trouver même à manger.
De Ségou, Mohamed Sissé pour Studio Tamani.
Dans la ville de Kati, le stationnement anarchique de gros porteurs s'accroît de jour en jour. C'est la cause de nombreux accidents de circulation, affirment des observateurs. Selon les conducteurs, la raison s'explique par le manque de parking à Kati. Alors, que dit la loi sur le stationnement anarchique? Y a-t-il des sanctions? Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondante Habibatou Christine Dra.
Selon le syndicat des chauffeurs conducteurs routiers du Mali, les conducteurs n'ont pas le choix car ils n'ont pas de parking pour se stationner. Jean Sissoko est le secrétaire général.
La ville n'a pas prévu de parking pour les gros porteurs. Les véhicules qui stationnent au bord du goudron attendent le dédouanement de leurs marchandises. Le plus souvent, ça prend du temps et la loi les interdit de circuler à certaines heures.
À ces dires, ils ont initié de multiples réunions afin d'aboutir à une solution, mais sans succès. Jean Sissoko, porte-parole des gros porteurs de Kati.
Au cours de notre dernière grève, nous en avons parlé avec les autorités. Nous avons réclamé un parking. Même aujourd'hui, cela fait partie de nos doléances.
Selon les autorités locales, le stationnement anarchique est interdit, mais reconnaît que la ville de Kati est confrontée à un problème de parcelles. Mamtou Traoré, 4e adjoint au maire de Kati.
La loi est claire. Il faut aménager un espace pour y stationner les gros porteurs. On a fait la réunion avec tous les acteurs. Maintenant, il faut échanger pour trouver une solution définitive.
Les autorités locales rassurent que des initiatives sont en cours pour solutionner ce problème dans la ville de Kati. Christine Abibatoudra de Kati pour Studio Tamani.
Situation de la COVID-19. À la date du jeudi 10 décembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 107 nouveaux cas positifs, 48 patients guéris et 3 décès. Bamako enregistre 90 cas, suivi de Kulikoro avec 12 cas confirmés et 6 cas sous 5 cas. La situation cumulée s'élève à 5 576 cas confirmés, dont 3 502 guéris et 184 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Khalifa Goïta.
Insouciance de la COVID-19 dans nos marchés. À Bamako, dans plusieurs marchés, le constat est le même. Des kits de lavage des mains sont sans eau ni savon et certains envahis par la poussière. D'autres traînent par terre. Aux abords de nombreux marchés et à l'intérieur, on constate que le port du masque n'est pas totalement respecté pour des raisons diverses. Les règles de distanciation physique sont également négligées par des clients et les vendeurs. Notre reporter Moussa Malissi-Sogo a sillonné quelques marchés suivant son reportage dans ce numéro d'ActiCovid.
Au marché de Bolibana, Aïcha et Oumou sont vendeuses de citrons. Assises l'une à côté de l'autre, elles estiment qu'il est difficile de respecter les mesures barrières.
Vraiment, on ne peut pas observer régulièrement les gestes de protection contre la maladie. Sinon, on se lavait les mains et on portait les masques. Sincèrement, on n'a pas le temps de porter un masque, mais de temps en temps, on se lave les mains.
Le constat est de même dans cet autre marché de légumes de Misira. On remarque un relâchement des mesures barrières contre la COVID-19, comme en témoignent les comportements de Adama Touré et Awa Kamara, vendeuses de légumes.
Entre nous et les clients, on s'échange couramment de l'argent sans respecter la distance des mètres. Actuellement, nous sommes fatigués d'observer ces mesures.
Contrairement à elle, Bourama, tradithérapeute, porte au moins un masque à défaut des solutions hydroalcoolique à côté.
Je porte le masque chaque fois que je sors de la maison, car je pense que le port du masque doit être respecté par tous pour contrer la maladie.
Le marché de Médine est un foyer d'échange et de proximité de toute nature. Fanta est vendeuse de condiments. Elle ne croit toujours pas en l'existence de la COVID-19 au Mali.
Les gens disent que la COVID-19 est dans le pays, mais j'en doute. Si cette maladie est en Europe, elle n'existe pas en Afrique, principalement au Mali.
Toutefois, certains clients, tant bien que mal, se lavent les mains et portent les masques. C'est le cas de Salif, client.
Je suis venu faire des achats dans cette alimentation. Mais avant d'entrer, je me lave les mains car la COVID-19 est toujours là.
Entre l'insouciance des uns et le doute des autres sur l'existence de la maladie au Mali, de nombreux observateurs invitent les autorités maliennes à renforcer la sensibilisation afin de minimiser la propagation de la maladie au sein des populations.
Le saviez-vous?
L'hôpital du Point G vient d'être doté d'un nouveau centre de réanimation COVID-19. Cette réalisation a été financée par l'AMUNISMA à hauteur de 80 millions de francs CFA. Ce centre mobile de réanimation a une capacité de 10 lits, mais réduit à 8 pour respecter la distanciation physique. Ainsi prend fin ActiCovid d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre les conseils des médecins pour vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit à dire que la vente de la friperie devient de plus en plus une activité génératrice de revenus pour les femmes de Diré en cette période de froid. Selon des sources locales, chaque jour, de nombreuses personnes vont au marché pour acheter des pulls verts, des couvertures et d'autres habits chauds pour se protéger du froid. Selon certaines vendeuses, cet engouement s'explique aussi par le fait que le prix est à la portée des populations. Le renouvellement du bureau de la Chambre du commerce et d'industrie de Gao est prévu pour le 17 janvier prochain. Déjà, une commission d'organisation est mise en place. Selon le président de la commission, jusqu'à samedi dernier, il n'a été reçu qu'un seul dossier de candidature. Face à la situation, une correspondance a été adressée au département de tutelle afin d'obtenir une prolongation de la date limite de dépôt des candidatures. Le projet Mali Justice a organisé ce mercredi à Koutiala une caravane de sensibilisation sur la corruption et les tracasseries routières. Le thème a porté sur tous unis contre la corruption et les tracasseries routières. L'objectif, selon les responsables de MJP, est de contribuer à lutter contre la corruption et les tracasseries routières. Ainsi s'achève cette édition matinale présentée par Imran Akilo Maïga que vous pouvez réécouter sur le site web www.studiotamani.org ou en appelant sur Viamo 37 321.